France Inter.
Bonsoir tout le monde et bienvenue à bord des petits bateaux. On embarque comme tous les dimanches avec un programme un petit peu spécial aujourd'hui parce que j'ai lu cette semaine que les filles décrochaient dès le CP en maths. Oui, dès le CP. Mais alors les filles, faut pas se laisser impressionner par les chiffres, oh, vous êtes beaucoup plus fortes que ça, je vous jure. Parce que là, le résultat, c'est que des années plus tard, il n'y a pas beaucoup de femmes scientifiques. Mais, il y en a quand même, et encore heureux, non mais... D'ailleurs, lundi, c'était la journée internationale des femmes et des filles de science. Et même si je salue l'initiative, j'avoue avoir un peu hâte qu'il n'existe plus de journée spéciale. Ça voudrait dire que c'est normal. Voilà, nous, par exemple, ce soir, on a une astrophysicienne, une myrmécologue, patient si tu sais pas ce que c'est, ou encore une ingénieure spécialiste du plastique pour nous expliquer comment il a été inventé. Et tout ça est normal. Tant qu'on est dans le programme, je vous annonce qu'on passera aussi devant les tableaux du musée du Louvre et qu'on ira farfouiller un petit peu dans nos cerveaux pour comprendre un phénomène qui arrive à beaucoup d'entre nous. Je fais durer le suspense. Numéro du répondeur pour poser vos questions qu'on est toujours trop content de découvrir. 01 56 40 43 57. Et bah, je crois qu'on est bon. Allez, on y va les matelots.
Les petits bateaux sur France Inter.
Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 9 ans et je voudrais vous poser une question. Est-ce que les fourmis vomissent ? Merci, au revoir.
Est-ce que les fourmis vomissent ? Ok, Chloé, c'est bien la preuve qu'on peut demander ce qu'on veut au petit bateau parce que nous avons une réponse, et oui. Enfin, nous, plutôt Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS. Vous la connaissez peut-être pour le Blob, dont elle a fait une star, mais elle est myrmécologue à la base, c'est-à-dire spécialiste des fourmis. Audrey Dussutour, alors, il y a des choses à dire sur le vomi des fourmis ?
Alors, bonjour Chloé. Donc, ta question est extrêmement pertinente parce que, en effet, les fourmis vomissent.
Ah ouais ?
Elles vomissent beaucoup. Mais les fourmis ne vomissent pas par terre.
Ah bon ? Et alors, elles vomissent où ?
Dans la bouche de leurs congénères. C'est ce qu'on appelle une trophallaxie. Alors, ça peut paraître pas très ragoûtant.
Non.
Mais il faut savoir que chez les termites, elles obtiennent la nourriture d'un orifice moins recommandable que la bouche. Donc, voilà. Et donc, la fourmi, elle a une particularité. Donc, c'est pas toutes les espèces, mais un certain nombre d'espèces de fourmis, elles ont deux estomacs. Un estomac qu'on appelle social et un estomac qui est perso, un estomac personnel. Donc quand elle mange, elle a la possibilité de mettre soit ça dans l'estomac social, soit dans son estomac personnel, où là ça va être digéré et ça va être pour elle. Quand elle met dans son estomac social, elle va revenir au nid et elle va régurgiter cette nourriture dans la bouche d'une autre fourmi. Parce que chez les fourmis, il n'y a que 10% des fourmis qui sortent à l'extérieur de la colonie pour ramener de la nourriture. Donc il y en a 90% qui sont au nid et qui ont le ventre vide. Donc elles obtiennent cette nourriture par trophallaxie, donc par ces... On appelle ça aussi un baiser nourricier, c'est plus joli qu'un vomi. Et donc pour solliciter une trophallaxie, la fourmi qui est à l'intérieur de la colonie va tapoter la récolteuse sur la tête avec ses antennes, ce qui va la pousser finalement à régurgiter de la nourriture. Et il y a des petits scarabées qui sont des petits malins qui des fois se mettent sur les pistes de fourmis et qui imitent les fourmis qui sollicitent. Donc ils tapotent les récolteuses et par réflexe, elles donnent de la nourriture aussi à des scarabées. Et donc les fourmis, il faut savoir que quand leur estomac social il peut se détendre complètement, se distendre, elles peuvent avaler jusqu'à leur propre poids en liquide. C'est comme si... Moi, par exemple, je devais avaler 50 litres d'eau, ça serait énorme, et que je devais courir en plus 10 km pour les ramener à ma maison. Elle stocke, et alors celle qui bat le record, c'est la fourmi peau de miel, on l'appelle comme ça, parce qu'en fait, elle est gorgée de liquide. Elle, c'est pas une fois son propre poids, c'est 10 à 15 fois son propre poids. Et elle reste, elle, carrément dans la colonie, accrochée au plafond. Ce sont comme des citernes vivantes, des petits frigos. Ce qui permet de conserver la nourriture, parce que du coup, elle ne périme pas, puisqu'elle est à l'intérieur du corps de la fourmi. Et c'est les autres fourmis qui viennent la remplir régulièrement. Et quand il y a une pénurie dans la nature, qu'il n'y a plus de nourriture, etc., les fourmis elles vont approcher ces citernes vivantes et demander, quémander de la nourriture. Alors là où elles ont un destin qui est un petit peu triste, c'est qu'une fois qu'elles sont totalement vidées, elles ressemblent à des vieux ballons de baudruche. Et elles ne peuvent jamais reprendre en fait leur forme initiale et elles meurent. C'est un destin un peu triste, ce destin de frigo vivant. Mais ça permet à la colonie de stocker de la nourriture et que cette nourriture ne périme pas.
Ouais, donc en fait, c'est une sorte de sacrifice. Et Audrey Dussutour, est-ce que toutes les espèces de fourmis peuvent le faire ? Ou est-ce que certaines ont une morphologie particulière qui, du coup, les destine à ça ?
Chez cette espèce des fourmis de peau de miel, en fait, toutes peuvent le faire parce que la carapace des fourmis, elle est en plaques. Et ces plaques, elles peuvent se dessouder. Et donc, en fait, la membrane peut s'étendre comme ça, vraiment se tendre énormément. Et quand on voit les fourmis de peau de miel, on ne voit pratiquement plus la carapace. Ça ressemble à des tout petits points, puisqu'on voit juste ce ventre énormément gonflé où on voit, en fait, la nourriture à travers.
Ah ouais ?
Ah ouais, c'est tout jaune. Et donc, d'ailleurs, il y a des fourmis de peau de miel aux États-Unis. Il y en a aussi en Australie. Et en Australie, c'est une tradition, les aborigènes, déterre en fait ces fourmis-là pour les manger.
Les fourmis transformées en sucreries au miel, ben ça alors, on part du vomi, on finit en bonbons, hein, comme quoi Chloé, tu as bien fait de poser ta question. Et je signale le livre qu'a publié au printemps dernier Audrey Dussutour avec Antoine Vistrach, L'Odyssée des fourmis chez Grasset. Et on passe à la question numéro 2, je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître.
Bonjour, c'est Aurélien, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi quand on fait quelque chose et que quelqu'un ne regarde pas, on y arrive, et quand quelqu'un nous regarde, on n'y arrive pas. Merci, au revoir.
Et merci à toi Aurélien, c'est Jean-Philippe Lachaud qui est directeur de recherche INSERM en neurosciences qui va te répondre, qui nous répond d'ailleurs, hein, parce qu'on est plein à qui c'est déjà arrivé. Pourquoi donc on réussit à faire certaines choses quand on ne nous regarde pas et qu'on se gaufre quand on nous regarde ?
Aurélien, pour au moins 3 raisons. La première, c'est que le fait d'avoir une personne à côté de toi, cette personne, c'est dur de l'ignorer totalement. Donc, tu vas un petit peu y faire attention. Par exemple, tu vas surveiller ses expressions de visage pour voir si la personne est contente ou non. Et toute cette attention que tu lui accordes, elle est moins sur ce que tu es en train de faire. Donc, tu es moins attentif. Donc, et en étant moins attentif, on est moins efficace, on est moins bon dans ce qu'on fait. Donc, on va commencer à rater. La deuxième chose, c'est quand même, ça met un peu la pression. Donc, ça fait un petit peu de stress. Le stress, on sait, va perturber un petit peu la façon dont les réseaux dans le cerveau fonctionnent pour arriver à faire ce qu'on était en train d'essayer de faire. Et la troisième raison, c'est qu'au lieu de faire des choses que tu ferais peut-être naturellement, sans trop y réfléchir et que tu fais bien, tu vas te mettre à y réfléchir, à essayer de recontrôler, de contrôler à nouveau ce que tu fais. Tiens, je vais faire attention à bien faire ça. Et on sait très bien qu'il y a certains automatismes qu'on a développés qui vont s'enrayer au moment où on essaie de les contrôler. Il y a des expériences comme ça qui ont été faites avec des footballeurs qui dribblent naturellement avec une grande agilité, des footballeurs professionnels. Puis on leur demande de faire vraiment attention à un petit détail. Par exemple, le contact de leurs pieds avec le ballon pour dire au moment où il y aura un coup de sifflet s'ils ont tapé avec l'intérieur ou l'extérieur du pied. Ils se mettent tout d'un coup à contrôler, ils ont une attention un petit peu crispée là-dessus, et là ils vont être moins bons, ils vont être beaucoup moins fluides. Donc le fait de contrôler ce qu'on fait, quand c'est des choses très automatisées, qu'on fait très bien d'habitude, parfois ça peut être un petit peu contre-productif.
Et alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre ça, Jean-Philippe Lachaud ? On va dire faire aussi bien en public ?
Eh bien la clé, c'est de s'habituer, c'est-à-dire de répéter. C'est pour ça que dans les conservatoires de musique, les enfants, très jeunes, on leur fait faire des auditions encore et encore. Et au bout d'un moment, ça devient naturel d'avoir du monde autour. On n'est plus, ça attire plus l'attention. On est sur ce qu'on fait, on a moins cette pression parce que c'est habituel.
Voilà, que l'exceptionnel devienne habituel. Donc un peu plus facile à dire qu'à faire, si je puis me permettre. Mais il faut le tenter. Allez, on oublie ce qui nous entoure et on fonce, on y croit. Là, par exemple, vous voyez, moi je pense pas du tout, mais alors pas du tout, à vous tous en train d'écouter la radio. Allez, un petit peu de musique pour se donner du courage. Alain Souchon, jamais content, dis donc.
Elle me dit que je pleure tout le temps, que je suis comme un tout petit enfant qui aime plus ses jeux, sa vie, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Déjà mes parents dans le temps voulaient que j'aille faire le charmant chez les amis de mon grand-père, des pharmaciens, des notaires, qui me trouvaient carrément vulgaire, très ordinaire. Carrément vulgaire, très ordinaire. Puis on m'a enrôlé d'office à peau dans les parachutistes. Ils voulaient que je tombe des avions accroché à un champignon. Je leur ai carrément dit non, pas beau l'avion. Dis non, pas beau l'avion. Je me suis sauvé en Angleterre. Je faisais le Frenchman super lover. Je me teignais les cheveux, les sourcils pour être plus brun, pour faire viril. Carrément débile, je trouve pas mon style. Carrément débile, je trouve pas mon style. J'ai
chanter la mélancolie en faisant des chansons sur mon lit. Une commande pour chanteur, pas bien. Fallait que je dise France, américain. Ça m'a carrément miné, tout dégoûté. Carrément miné, tout dégoûté. Promoteur, il voulait canaille que je fasse de sous-table homme de paille. Construire des tours de carton bleu pour que les petits garçons mettent leur jeu. J'ai carrément mis le feu, bien fait pour eux. Carrément mis le feu, bien fait pour eux. Que je pleure tout le temps, que je suis comme un tout petit enfant, qu'aime plus ses jeux, sa vie, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content.
Bonjour, je m'appelle Capucine et je voudrais savoir si les astrophysiciens se servent encore de ce qu'ils ont appris en maths et en physique au collège. Merci de me répondre. Bonne journée.
Et bonne journée, bonne soirée, Capucine. Je sens une petite maline, un petit argument qu'on peut dire de temps en temps quand on est à l'école, au collège, au lycée. Non, mais ça sert à rien. De toute façon, je m'en servirai jamais de tout ce que j'apprends en maths et en physique. Et donc, je pose la question à une astrophysicienne, une vraie Nabila Haghanim, astrophysicienne et cosmologiste. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Alors, est-ce que vous vous servez encore aujourd'hui de ce que vous avez appris en maths et en physique au collège?
Alors, elle est trop cool, cette question, parce qu'elle me rappelle la question que me pose ma fille au collège et ses copines et ses copains en me demandant, mais à quoi ça sert d'apprendre la trigonométrie et les cosinus et les sinus, mais on ne les utilisera jamais dans notre vie? Eh bien, si vous voulez devenir astrophysicien et astrophysicienne surtout, sachez que ce que vous apprenez au collège vous servira. Alors, il vous servira pas directement, mais ce qu'on apprend au collège, c'est essentiellement des notions très très importantes, des notions fondamentales, comme par exemple les notions de vitesse, les notions de force, les notions de trajectoire, les notions d'énergie, les notions d'atomes. Toutes ces notions, ce sont des notions qui, quelque part, vont être un peu les fondements, comme un peu quand on construit une maison, les fondements du savoir que vous allez construire au fur et à mesure de votre parcours scolaire. Et quand les fondements sont solides, eh bien, la maison est solide. Et de la même manière, les notions que vous allez apprendre en physique, mais les notions que vous allez apprendre aussi en mathématiques, les puissances, les proportionnalités, la trigonométrie, toutes ces notions vont vraiment construire le socle de vos connaissances pour l'avenir.
C'est-à-dire, si vous les avez pas, la maison va être bancale, elle va s'effondrer un jour, vous pourrez pas être astrophysicien ou astrophysicienne, hein, on précise.
Astrophysicienne et astrophysicien, oui, tout à fait. Et alors, ce sont des notions qu'on peut acquérir plus tard, mais le plus tôt on les comprend, et le plus loin, finalement, on peut aller dans la compréhension et dans le détail de la physique et des mathématiques. Et donc, le plus loin, on peut construire sa maison et le plus loin, on peut construire son savoir. Alors, bien entendu, hein, je suis pas en train de dire que si vous ne comprenez pas des choses au collège, c'est fini. Vous ne serez jamais astrophysicienne ni astrophysicien. C'est absolument pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont effectivement des notions qui sont très, très importantes et quand elles sont en même temps bien enseignées et bien comprises, alors elles forment vraiment le socle et les bases de la connaissance. Je voudrais dire quand même que les mathématiques et la physique ne sont pas les seules notions ou matières qu'on utilise quand on est astrophysicienne ou astrophysicien. Le français est très très important. La langue, le langage est très très important.
Ah bon, mais c'est pas en anglais souvent les études, les recherches?
La langue et le langage, c'est pour ça que je parle du français, mais de la langue et du langage en particulier, parce que quand on est astrophysicien, astrophysicienne, quand on est scientifique, quand on est chercheur, on conçoit des concepts, on les explicite, il faut avoir un sens du raisonnement. Alors bien entendu, aujourd'hui, la science se fait au sens de la communication, essentiellement en anglais, mais la construction mentale pour raisonner, expliquer écrire, trouver les mots pour expliquer de différentes manières des choses, pour pouvoir communiquer ses résultats à ses collègues et aussi au grand public. On l'apprend dans la langue maternelle et on l'apprend dans la langue qu'on a à l'école.
Et alors Nabila Aghani, moi je vois certaines petits malins malines qui sont en train de dire aux parents « Ouais mais moi j'ai pas envie d'être astrophysicienne ou astrophysicien, donc tu vois ça me sert à rien les maths et la physique, elle le dit la dame, ça sert que quand on veut être astrophysicien ou astrophysicienne. » Alors ?
La dame n'a pas dit « ça ne sert que quand on veut être astrophysicien et astrophysicien ». Aujourd'hui on est dans un monde où la technologie domine complètement. Quand on utilise un téléphone portable, quand on regarde la télé, quand on fait du streaming, quand on utilise ChatGPT, quand on s'amuse à des jeux vidéo, on utilise de la science partout, partout, partout. Et si on ne veut pas se retrouver un petit peu comme au Moyen-Âge à penser que nos objets technologiques, c'est de la magie, il faut comprendre ce qu'on utilise.
Voilà, Capucine. Donc, on se concentre pendant les cours de maths et de physique qu'on utilise, entre autres, pour comprendre ChatGPT, hein, t'as entendu? Et pas le contraire, s'il te plaît, c'est pas ChatGPT qui fait les devoirs. C'est une astrophysicienne qui te le dit. Et comme c'est important de montrer que c'est possible d'être une femme de science et qu'il en faut encore plus, voici une autre chercheuse qui arrive pour répondre à cette question.
Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 5 ans et je voudrais savoir comment on a inventé le plastique.
Kako Naitali, vous êtes ingénieure en chimie des matériaux, docteur experte polymère. Alors, comment a-t-on inventé le plastique, demande la petite Luna.
Alors, le plastique, il faut quand même savoir une chose, c'est que la matière plastique, elle existe dans la nature, en fait. C'est-à-dire que, dès l'Antiquité, les Romains utilisaient des carapaces de tortue qu'ils faisaient bouillir pour les rendre plus malléables. La carapace est en plastique. Et donc, ils pouvaient les mouler et en faire des objets. Donc ça, c'était le premier plastique, finalement, qui était naturel.
La carapace de tortue, incroyable. Moi, je pensais que vous alliez dire l'arbre à caoutchouc.
Mais justement, c'était mon deuxième point. C'était la deuxième étape. Il y a 1600 ans, chez les Mayas et les Aztèques, ils utilisaient la sève, donc le latex issu de l'EVA, pour fabriquer des balles. Donc, ils le modifiaient avec une plante pour en faire des balles qui ressemblaient aux balles en caoutchouc qu'on a aujourd'hui.
Il y a 1600 ans.
Il y a 1600 ans. C'est le premier plastique artificiel. Ensuite, autour de 1860-1870, on a commencé à fabriquer du plastique, c'est-à-dire à le synthétiser à partir de la biomasse, de cellulose notamment. Mmh. Comme par exemple le celluloïd. Donc on l'utilisait pour remplacer l'ivoire dans les boules de billard. Et ensuite on a utilisé le celluloïd pour fabriquer les films cinématographiques. On a arrêté de l'utiliser ensuite parce qu'il était inflammable, c'était un petit peu dangereux. Et donc à partir de 1920-1930, on a commencé à synthétiser les premiers plastiques issus du pétrole. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là. Et c'est là où on a inventé le PVC, polyvinyle chloride.
Polyvinyle chloride, PVC.
Et donc ce PVC, il a été utilisé pour des applications d'isolation électrique, ce genre de choses, entre autres. Hein. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale et après, là, ça a été. Il y a eu énormément d'inventions de nouveaux plastiques. Donc les plastiques qu'on connaît aujourd'hui, les polyéthylènes, le polypropylène, le polyamide, le kevlar, etc. etc.
Et maintenant, donc, le plastique, il est plus inflammable ?
C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas inflammable, mais il ne résiste pas à la température. C'est-à-dire que si vous prenez un plastique et que vous le mettez, si vous essayez de le brûler, il va fondre.
Ouais.
Mais il va pas s'enflammer, il va fondre. En fait, il a été conçu justement pour éviter, par exemple dans une maison, hein, d'enflammer toute la maison. Quoi. Il peut même résister assez longtemps, hein, plusieurs heures hein, avant de fondre. Hein. Mais au bout d'un moment quand même, la température va avoir un effet sur le plastique.
Et petite question bonus, Kako Naitali, je voulais savoir, la bakélite, c'est quoi exactement?
Alors la bakélite, c'est un plastique synthétique issu de la biomasse, donc de la cellulose. Donc c'est la même chose que le celluloïde, un autre type. Hein. On en faisait des petits boutons en fait, petits boutons pour les chemises, etc. Voilà, c'est un plastique très dur en fait. C'est le premier plastique thermodurcissable. Alors, je vais expliquer ce que c'est thermodurcissable. C'est-à-dire qu'il n'est pas plastique. Quand on le chauffe, il ne fond pas.
Voilà, mais il durcit, donc un thermodurcissable, c'est logique. Le plastique, bien pratique, mais devenu malheureusement une plaie énorme pour la planète, vous le savez, sur Terre et dans les océans. 90% par exemple des animaux marins ont déjà ingéré du plastique. Imaginez, c'est une cata. Kako Naitali est d'ailleurs membre de l'association 7e Continent qui lutte, comme beaucoup d'autres, contre cette pollution. La voix d'Arlo Parks, elle chantait Weightless.
Les petits bateaux. Camille Cronier sur France Inter.
Bonjour, je m'appelle Ambre et je voulais savoir qui est-ce qui décide des tableaux qu'on accroche au musée du Louvre. Merci de répondre à ma question.
Et c'est avec grand plaisir qu'on le fait, Ambre. Le Louvre que tu as certainement déjà visité, si tu poses cette question, comme des millions et des millions d'autres personnes, puisque c'est le musée le plus visité au monde. Et c'est peut-être au programme de celles et ceux qui nous écoutent et sont en vacances. Qui donc décide des tableaux qu'on accroche au Louvre? Pascal Torres, je me tourne vers vous, puisque vous êtes conservateur en chef au musée du Louvre.
Ambre, c'est très simple et en même temps très compliqué. Donc on va essayer de faire la synthèse des choses. Tout d'abord, je voudrais te préciser qu'il n'y a pas que des tableaux au musée du Louvre. Le musée du Louvre est un musée qu'on appelle universel, dans lequel il y a énormément d'objets. Tous ces objets, les tableaux, les diamants de la couronne, évidemment les sculptures, les antiques, les dessins, tous les objets qui constituent ce qu'on appelle les collections d'un musée, ont été rassemblés par diverses personnes. Pour commencer, en France, l'un des premiers grands rois collectionneurs était Charles V au XIVe siècle. Après, il y a eu évidemment François Ier qui commence à faire de grandes collections à la Renaissance. Et toutes ces collections royales, un beau jour, sont devenues des collections dites nationales, c'est-à-dire des collections qui appartiennent aux citoyens révolutionnaires, aux citoyens républicains, c'est-à-dire à nous tous. Et puis, au fil du temps, toutes ces collections sont devenues des objets de référence. C'est-à-dire que les gens souhaitent voir les trésors de la France, les trésors des musées français, les trésors du musée du Louvre. Alors, qui décide effectivement de ce qu'on va montrer? Eh bien, il y a une profession très particulière dans les musées, c'est le conservateur, celui qui conserve. On l'appelait le gardien, autrefois à la Révolution, gardien des collections royales avant la Révolution. Et en fait, c'est lui qui va décider de ce qui a une valeur suffisamment intéressante pour être montré à l'intérieur du musée. Alors évidemment, ce n'est pas lui tout seul, le seul conservateur. Il y a plus de 80 conservateurs au musée du Louvre, par exemple. Et puis, bien au-delà, il y a également le jugement de l'ensemble du public qui veut voir la Joconde, par exemple. Imagine qu'on retire la Joconde. C'est une chose quasiment impossible. Donc c'est à la fois le conservateur qui va dire, voilà, tel objet est important, il faut le montrer à l'intérieur du musée. Pourquoi est-il important? Bah, ma foi, il peut être important parce que c'est un chef-d'œuvre, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, la Joconde, les noces de Cana, les joyaux de la couronne dont on parlait, les diamants, le Sancy, le Régent, etc. Autant de choses qui, par leur importance artistique, esthétique, par sa beauté, par sa bizarrerie, par son importance historique, etc., méritent d'être montrées à l'ensemble du public qui va s'y reconnaître, qui va retrouver là son origine culturelle. Voilà qui décide. À la fois le conservateur qui va identifier l'œuvre et en même temps le public qui veut la voir. Donc, il y a autour de ce qu'est le choix scientifique de telle œuvre que l'on va présenter, toute l'infrastructure technique et médiatique qui fait que aujourd'hui, énormément de professionnels des musées qui ne sont pas conservateurs uniquement, mais qui sont des médiateurs en fait, eh bien vont s'arranger pour montrer cette œuvre visible, la rendre visible.
Et,
voilà.
Et alors vous privilégiez quoi, Pascal Torres? Montrer une œuvre que le public connaît et veut voir, par exemple la Joconde, avec donc un côté un petit peu attendu, ou vous allez plus loin et tenter de faire découvrir autre chose?
Les deux choses à la fois. Parce que même, je dirais, pour la Joconde que l'on donne à voir, on la donne à comprendre également. Ça, ce serait l'idéal. C'est-à-dire que regarder une œuvre, eh bien, ma foi, on peut la regarder, on peut la voir, et puis il n'y a pas d'obligation. Mais si l'on désire entrer dans quelque chose qui est complexe, qui est lointain, assez loin de nous, éloigné dans le temps, éloigné dans la culture, éloigné dans le sens même intime, tant esthétique, historique, eh bien, il faut expliquer, commenter. C'est aujourd'hui le rôle principal du musée. Pédagogique et évidemment médiatique.
Voilà les explications du conservateur en chef du musée du Louvre, Pascal Torres. Et à propos de chefs-d'œuvre, il y en a un dont on a beaucoup, beaucoup parlé ces derniers jours, vous avez peut-être entendu d'ailleurs, la partie de bateau signée de l'impressionniste Gustave Caillebotte en 1878, le canotier au chapeau haute forme, là, qui est en train de ramer sur son bateau, magnifique tableau qui vient d'être accroché, lui, au mur du musée d'Orsay, un trésor national que vous pourrez donc allez admirer également si vous passez par Paris, bien sûr.
Bah alors vous entendez cette petite musique, vous la reconnaissez? C'est pour dire que les petits bateaux, c'est fini pour ce soir. C'est passé vite, non? L'émission a été préparée par Marjorie Devoucoux, réalisée par Stéphane Combe avec Julien Chabassu à la technique. Et c'est Valentine Chedebois qui signe la programmation musicale. Finito, donc on remballe, mais pas de panique, oui, parce que j'en vois paniquer, si, si. On revient dimanche prochain avec toujours plus de questions et de réponses qui vont forcément vous intéresser et vous étonner. D'ici là, vous pouvez réécouter ou podcaster l'émission sur franceinter.fr et l'application Radio France et en parler aux copains et aux copines. Passez une très joyeuse soirée, les petits matelots.